Les sujets est un sujet épineux, mais passionnant. Il est aussi très vaste et riche, c'est pourquoi on ne pourra ici que développer quelques remarques. Bah, je voudrais commencer avec une anecdote pour rendre la thématique beaucoup plus légère, mais en même temps en utilisant une métaphore qui rend bien la situation à traiter. Elle concerne la question du plaisir de la lecture. Plaisir qui, pour certains aspects, est supposé être obligatoire, surtout pour les textes littéraires en traduction, comme s'il s'agissait d'un postulat éternellement valable et indiscutable. Autrement dit, est-ce que le plaisir de la lecture doit obligatoirement accompagner toute traduction? Nous devions partir en vacances chez nous en Toscane lorsqu'une collègue historienne nous a dit tout le bonheur qu'elle éprouvait à la lecture des lèvres d'Andrea Camilleri et des aventures de son commissaire Salvo Montalbano. On m'a dit qu'on les passe à la télé, donc tout le monde pourra comprendre cette anecdote que je vous raconte. Nous aussi, désireuses de repos et d'insouciance estivale, avons voulu goûter au même plaisir du texte et acheter illico, arrivé en Toscane, l'ouvrage « Les derniers Camilleri » qui venait de paraître. Mais quelle déception, dès que nous avons commencé à buter en lisant sur un nombre de plus en plus impressionnant de sicilianismes. Dans une situation pareille, le lecteur a trois possibilités. Ou il dispose d'un dictionnaire sicilien-italien, ou il laisse tomber tous les mots siciliens qu'il rencontre et qu'il ne connaît pas. Je pense que c'est l'attitude générale chez les Italiens. On comprend que ces sicilianismes décrivent un contexte sicilien, une culture sicilienne, un milieu sicilien, et cela suffit. Ou bien, et ça serait mon cas, comme je suis linguiste et je voudrais bien comprendre ce que je suis en train de lire, je vais essayer, faute d'un dictionnaire sicilien-italien à ma disposition, je vais essayer de comprendre si les sicilianismes que je rencontre sont d'origine française, gallo-provençale, espagnole, normande, arabe, byzantine, romaine ou bien autochtone. Puisque toutes ces civilisations, toutes ces cultures ont habité ou colonisé la Sicile. Alors vous comprenez qu'à ce moment-là, mon plaisir du texte avait disparu. J'étais en train d'étudier les Siciliens et vraiment, ce n'était pas mon but. On m'avait dit que c'était relaxant, que je pouvais m'amuser. Donc, objectivement, j'ai fermé Camilleri et je ne l'ai plus réouvert. Mais alors, pourquoi ma collègue historienne normande avait autant de plaisir à lire Camilleri? Eh bien, tout simplement, parce qu'elle lisait Camilleri en traduction française. Donc, elle ne savait même pas que les personnages de Camilleri parlaient sicilien aussi, pas seulement italien. Tous s'expriment dans ces traductions en bon français standard, un français classique qui est toujours aisément compréhensible. Alors, voilà les paradoxes. Il aurait fallu, avant de partir en vacances en Italie, que j'achète une édition française de Camilleri. Alors là, j'aurais eu tous les plaisirs du texte dont j'avais besoin pour me reposer. Nous avons constaté les mêmes phénomènes, d'après nous, je l'ai dit tout de suite, pour moi ce phénomène est aberrant, en lisant Vincenzo Consolo. Vincenzo Consolo, l'expérimentalisme linguistique défendu et revendiqué par cet auteur d'origine sicilienne, qui avait comme modèle suprême, entendez bien, Dante Alighieri. C'est le modèle suprême de l'expérimentalisme linguistique chez Consolo, ne s'arrêtait pas à l'usage des sicilianismes, rendant son texte parfois opaque au plan sémantique, et pour comprendre Consolo, il faut le lire en traduction française. Pour qu'un Italien lise Consolo sans se fatiguer, eh bien, il faut qu'il lise Consolo en français. Et il y a eu le privilège et le plaisir de rencontrer Consolo en 1995, nous lui avons fait remarquer cette contradiction dans sa poétique de l'écriture créatrice. Être très difficile à lire pour les Italiens et d'un accès banal pour les Français. Mais cette contradiction ne les gênait pas, car l'écriture expérimentale en italien lui avait donné la réputation de grand écrivain, Et les traductions françaises lui avaient donné la célébrité à l'étranger. Nous, à la recherche d'un compromis entre son art savant et sa vanité toute humaine, lui avons même cité les Caillustes de Pier Paolo Pasolini qui avait apposé un glossaire romanesque italien à ses romans qui se passent dans la banlieue de Rome. Mais nous avons plaidé sans succès la cause du lecteur italien, contemporain de Vincenzo Consolo, et son œuvre s'adressera à jamais, puisqu'il est décédé en plus entre-temps, son œuvre s'adressera à jamais à une élite cultivée et polyglotte. Pourquoi toutes ces réflexions? Puisque Henri Méchonic, en parlant de traduction française de Dante, cite la position de Philippe Soller. Et qu'est-ce qu'il dit Philippe Soller? Il dit que la traduction d'André Pézard n'est qu'un galimatia médiévaliste. Comme la plupart des lecteurs français, Soller ne veut lire qu'un Dante du XXe siècle, s'exprimant dans un français classique, sobre et fondamentalement parisien. Mais Dante, je regrette pour tous ceux qui souhaiteraient cette chose-là, qui ne verraient volontiers que ça, Dante est né en 1265 à Florence. Et les Italiens, quoique dans des formes légèrement italianisées au plan phonomorphologique, lisent encore la Divine Comédie dans les Florentins illustres de cet écrivain du Moyen-Âge. Comme le souligne Roger Dragonetti, au début de l'une de ses conférences données à Genève vers la fin des années 70, au risque de vous décevoir, je commencerai tout d'abord pour vous dire une banalité, Dante est un poète du Moyen-Âge. Mais la langue de ces poètes n'est pas du simple florentin, puisque déjà ça serait déjà plus facile. C'est du florentin illustre. Qu'est-ce que cela signifie du florentin illustre? À la recherche, donc, qu'est-ce que cela signifie? À la recherche d'une langue vulgaire différente du latin, mais également noble et soutenue, Dante a introduit dans son florentin deux mots ou deux tournures appartenant à la tradition littéraire du XIIIe siècle. La poésie sicilienne, Siculo Toscane, les Dolce Stil Novo, les compositions de troubadours de Provence, les gallicismes de la littérature d'Oïl. Il a introduit 500 mots savants, seulement dans la Divine Comédie, dont une bonne partie n'existe plus. C'est-à-dire, ce sont des mots latins qui n'existent pas dans les Florentins. Pour vous donner une idée, pour que la chose soit claire, tout le monde connaît un italien bellissima, les superlatifs issimo. Eh bien, il n'existe plus. On le doit à Dante, il l'a récupéré vers 1292, il l'a réintroduit dans sa prose, et c'est parce que Dante a récupéré issimo, issima, il existe aujourd'hui dans la littérature italienne. Mais il a récupéré comme ça 500 mots savants, dont une partie existait déjà dans les écritures vulgaires du droit, etc., mais dont une bonne partie n'existe pas. Donc, pour quelqu'un qui n'est pas lettré, ce sont des mots inconnus. Comme pour quelqu'un qui n'est pas lettré, les gallicismes, le provençalisme, tous ces dialectalismes qu'il introduit dans la Divine Comédie, ce sont des mots qu'il ne connaît pas. Puis, comme si cela ne suffisait pas, il introduit aussi des grécismes, et tente même des créer des néologismes d'origine grecque. Il fait parler aussi de personnages en d'autres langues, morts ou parlés de son époque, du latin comme du provençal, et même il invente une langue, on pourrait dire une glossolalie concernant des créatures diaboliques. L'expérimentalisme linguistique de Dante les pousse aussi à utiliser des dialectalismes et à forger des néologismes. Il forge beaucoup de néologismes. Seulement en utilisant les verbes parasynthétiques, il forge une trentaine de mots qui n'existent pas et qui ne passent pas tous après dans la langue parlée, italienne. Par exemple, il forge le verbe indiarsi, entrer en Dieu. Indiarsi, C'est un verbe parasynthétique, on prend le substantif Dieu, on lui met devant un préfixe, on lui ajoute un suffixe, on en fait un verbe, mais il invente plein de verbes comme ça. Donc, s'unir à Dieu, pénétrer en Dieu. Le nom propre aussi n'échappe pas à son action créatrice. Et outre les phénomènes de néologie nominale, nous avons une valorisation du nom propre en position d'accent et des rimes. Il y a une poétique du nom propre chez Dante. Cette inventivité et ce plurilinguisme ont fait de Dante le père incontesté de la langue italienne, tel un nomothète, il a donné naissance à un idiome illustre, dans lequel, par sa richesse et sa variété, les noms toscans aussi ont pu se reconnaître. Mais d'abord, c'est un toscan. C'est un florentin, sa langue est une langue florentine. Mais attention, puisque c'est l'archaïsme qui nous intéresse, il ne va pas choisir les florentins parlés, par exemple, lorsqu'il est âgé de 30 ans, puisque là, il est né en 1267, il écrit la Divine Comédie, disons entre 1307 et 1321, on prend 21 puisque c'est l'année de sa mort. Il n'utilise pas la langue parlée à Florence à ce moment-là. Il utilise toujours la langue parlée à Florence par une génération ou deux avant lui. C'est-à-dire, au fond, c'est la langue du père, c'est la langue de la mère. La langue vulgaire, c'est pour Dante la langue maternelle, c'est la langue de la mère. Par exemple, qu'est-ce qu'il dit Roger Dragonetti, hein? Aucun lecteur de Dante ne serait en droit d'affirmer que la langue de la Divine Comédie est d'une clarté transparente. Sept siècles d'exégèse n'auront pas suffi non seulement à rompre les secrets de l'énigme forte de la Commedia, mais à réconcilier les exégètes en désaccord sur quantité des passages. Là, il y a aussi d'autres problèmes, effectivement, qui se branchent. C'est la question de l'exégèse. Puisque le problème des Dante, c'est qu'on n'a aucun texte autographe écrit par la main de Dante. Et tous les textes copiés par les copistes, ce sont des textes qui ont au minimum 20-30 années de distance par rapport au moment de l'écriture. Puis, bien évidemment, chaque copiste a son niveau socioculturel, son dialecte d'origine, et en copiant, va transférer sa propre langue. Alors, on arrive à imaginer quelle était la langue de Dante parce qu'on a quand même 300 copies, la première de 1336, et puis qui suivent au XIVe siècle, on en a encore 500 au XVe siècle. Mais cela veut dire qu'on déduit quelle était la langue de Dante, mais on ne sait pas quelle était effectivement la langue de Dante, et quand on copie, on fait des fautes. Donc je suis sûr que pendant des siècles, on s'est chamaillé sur deux points d'interprétation due probablement à une faute de transcription tout simplement, c'est-à-dire on ne sait jamais vraiment ce que Dante avait voulu dire exactement. C'est vrai qu'il n'y a pas une rupture totale entre le toscan du Moyen-Âge et l'italien du XVIe siècle, comme on peut le constater en revanche entre ancien français et français moderne, mais cette continuité ne signifie pas du tout immobilisme et parfaite identité dans les temps. Un toscan du XIIIe siècle ne parle pas du tout l'italien du XXe. Il y a des manuels italiens, celui dans lequel j'ai étudié moi-même au lycée la Divine Comédie, où on trouve deux vers de Dante, deux vers, vous avez une page, deux vers de Dante et des notes à pied de page. Oui, oui. Pour expliquer la Divine Comédie aujourd'hui aux Italiens, on a deux vers et une page de notes à pied de page. Donc, penser que les Italiens aujourd'hui comprennent parfaitement Dante, c'est faux. C'est encore. Si on vous dit ça, on est en train de vous mentir. Hein. Mais Gianfranco Contini s'est amusé à montrer dans les cas d'un sonnet qu'il y a plein de mots, gentil, onesta, donna, umiltà. C'est un exemple qui a été repris par Umberto Eco dans Dire presque la même chose, où tous ces mots-là, qui paraissent absolument normaux à l'italien d'aujourd'hui, puisque dans l'italien d'aujourd'hui, il y a l'adjectif gentil, il y a l'adjectif honnête, il y a le substantif donna et umiltà, eh bien, ils démontrent qu'ils n'ont plus du tout la même signification. C'est-à-dire, si on lit ces sonnets de Dante en attribuant à ces mots la signification d'aujourd'hui, on donne une interprétation qui n'a rien à voir avec l'original. Donc tout ça pour revenir évidemment au Galimatia, médiévaliste de Pésare, et pour arriver à la conclusion que les Galimatia médiévalistes de Pésare existent déjà depuis 7 siècles chez les Italiens. Ce sont les galimatias médiévalistes, pour ainsi dire, des Dante Alighieri. Georges Mounin, lorsqu'il aborde dans Les Belles Infidèles la question fondamentale du décalage historique entre la traduction et l'original, rappelle que le XVIIe et le XVIIIe siècle français ne connaissent qu'une seule façon de traduire. Ils font parler le poète ancien dans les français de leur époque, comme il parlerait à peu près lui-même s'il avait vécu dans ces siècles-là. Mounin écrit ceci entre 1952 et 1954, mais Les Belles Infidèles est publié en 1955. Ce principe vaut aujourd'hui encore dans la traductologie française. Moi, je suis convaincue que lorsqu'on demande à Dante de parler la langue les Parisiens du XXe siècle, eh bien, on est encore dans la querelle des anciens et des modernes. La querelle des anciens et des modernes poursuit son chemin sans que l'on mette en doute la victoire apparemment indiscutable d'autrefois des modernes sur les anciens. Bon, si vous voulez, je ne croyais pas aller réfléchir et passer mon temps sur la question de l'archaïsme et sur les rapports de la culture française à l'archaïsme, mais finalement je me suis rendu compte que c'est de ça qu'il s'agit. Il y a une uniformité de pensée, hein, une homogénéisation finalement de la conception de la traduction qui va au-delà de toutes les disputes sur sourcier, sibylliste. Finalement, que l'on soit sourcier ou que l'on soit sibylliste, on est tous contre l'archaïsme. Et donc ça veut dire qu'il y a une conception de la traduction qui est au-dessus de toutes ces ramifications qu'on nous fait croire tellement ramifiées. Au fond, on est dans une conception de la traduction qui est assez uniforme. Et moi, je n'ai pas pu résister, évidemment, ces derniers jours, je me suis, disons, nourrie de tout ce que je pouvais avoir à côté de moi pour comprendre pourquoi, comment, etc. Alors, c'est très intéressant d'aller revoir de ce point de vue Les Belles Infidèles de Georges Mounin, puisque la fausse justification de cette démarche actualisatrice, c'est Rivarol, le traducteur de Dante, qui la donne par les biais de son discours préliminaire à la traduction de l'Enfer. Et on est en 1783. 1783, Rivarol dit, ce n'est point la sensation que fait aujourd'hui le style de Dante en Italie qu'il s'agit de rendre, mais la sensation qu'il fit autrefois. Alors, je demande, comment peut-on établir quelle sensation fit cette œuvre au XIVe siècle? On part du présupposé erroné que Dante utilisait la langue bien compréhensible de ses contemporains. Et Rivarol conclut son discours par cette réflexion hautement significative. Si les romans de la rose avaient les beautés du poème de l'enfer, croit-on que les étrangers s'amuseraient à les traduire en vieux langage, afin d'avoir ensuite autant de peine à les déchiffrer que nous? Il est en train de nous dire, nous les Français, on a beaucoup de peine à déchiffrer les romans de la rose, donc pourquoi on devrait traduire les romans de la rose en vieux langage italien pour se compliquer l'existence. Vous voyez, c'est exactement. Ce qui m'a étonné, c'est même pas les commentaires de Rivarol, on est en 1783. C'est les commentaires de Georges Mounin. Après son travail, après la traduction des Dante en français du XIVe siècle, il respira toujours à traduire en français d'aujourd'hui ce vieux français compris des scènes romanistes. Exactement comme nous devons mettre en français d'aujourd'hui la chanson de Roland. C'est-à-dire, si les Italiens traduisent en vieux français, hein, ces vieux français compris des celles romanistes, ben, il faudra faire comme on fait nous, mettre en français d'aujourd'hui la chanson de Roland. Rivarol n'a donc pas tort de préconiser son registre vert transparent qui supprime l'épaisseur historique entre Dante et nous, pour nous faire entendre les poèmes tout neufs et les émotions toutes fraîches qu'entendaient les contemporains italiens de Dante. Là, on est objectivement dans la mythologisation du lecteur italien du Moyen-Âge. Puis, de l'autre côté, j'ai beaucoup travaillé sur Mounin dernièrement, il y a une conception de la poésie chez Mounin, il suffit de lire avec vous Charles, la poésie doit être immédiateté, émotion qui se transfère aussitôt du poète au lecteur. Et ça, c'est donc la conception de la poésie chez Mounin qui va modifier sa conception de la traduction. Je ne reviendrai pas sur ça, je reviendrai après sur Mounin pour une raison très simple. Mounin fait un compte rendu d'une traduction de Dante faite par Pesaro. Et c'est ça qui est très intéressant. Ils se connaissent, ils ont travaillé ensemble, ils ont fait des publications même ensemble. Et Mounin est un italianiste, il enseigne pendant 12 ans l'italien avant de devenir un linguiste et d'abandonner l'italianisme. Pesaro, il a déjà enseigné 17 ans l'italien dans les collèges, puis il va enseigner pendant plusieurs années l'italien dans les lycées, à l'université. Et Pesaro, en 1953, traduit une œuvre de Dante. Il n'y a pas que Pesaro, traducteur de Dante, de l'œuvre complète de Dante pour la Pléiade en 1965. Il y a déjà un Pesaro, traducteur de Dante, en 1953. Et ça, c'est absolument exceptionnel, puisque cela nous permet de comparer les deux Pesaro. Puisqu'en fait, je vous l'annonce, il n'y a pas qu'un Pesaro traducteur de Dante, il y a deux Pesaro traducteurs de Dante, selon des principes totalement opposés. Ce premier Pesaro, il est parfaitement en syntonie avec la traductologie française. Il est tellement en syntonie avec la traductologie française que dans son compte rendu sur cette traduction, les mots de Mounin pour Pesaro ne sont que de louanges. Bon, il critique l'introduction puisque il n'y a pas un tableau historique, mais il ne sait pas que 12 ans après, il va retraduire la même chose avec des principes qui sont complètement opposés. Et il dit, la traduction est allouée. Nulle prétention, nulle recherche d'archaïsme biscornu. Des faux tons anciens comme on fait du faux marbre et du faux bois. Pesaro a la probité de rendre Dante en bon français. Sur un seul registre bien choisi. C'est une traduction de celle dont parlait Rivarol, notre célèbre Rivarol, qui, quand elle traduit Zenatel, l'explique en français d'aujourd'hui. Ce qui nous charge des mignardismes arotiques, donc on a trouvé les gallimatiens médiévalistes, maintenant on a les mignardismes arotiques de tant de traducteurs de Dante, éblouis, c'est-à-dire aveuglés, par l'art exceptionnellement inspiré avec lequel Bédier réécrivit Tristan et Iseult. Donc, Pesaro, qui ne fait pas du tout d'archaïsme, il est parfaitement en syntonie. Donc Pesaro, quand il veut, il n'est pas dans l'impossibilité, dans l'incapacité de le faire. Oui, j'avais oublié de vous dire que la Vita Nova alterne la prose et la poésie. C'est super intéressant, puisqu'on a les mêmes mots en prose et en poésie, ce n'est pas les mêmes. Là, par exemple, il utilise les mots « anima », c'est les mots aussi de l'italien aujourd'hui courant, mais quand il s'exprimera en prose, il va utiliser les mots poétique alma. Moi, j'utilise la Vita Nova dans mes cours d'histoire de la langue italienne pour montrer la bifurcation qui va se créer à ce moment-là entre la prose et la poésie. C'est vraiment fondamental pour voir tout ça. Enfin, c'est une mine d'informations linguistiques sur l'histoire de l'Italie. Là, on a les poèmes. Vous avez en face la traduction. Les poèmes, alors là, vraiment, c'est plorale, c'est un latinisme. En italien, on dit piangere. Parfois, il l'utilise. Vous voyez, il y a aussi des formes qui cohabitent. La base, c'est toujours plurale. La base latine, c'est plurale. Mais elle, précédée des consonnes, va donner les iodes. Vous voyez? Donc, la base, c'est toujours du latin. Mais là, on a gardé la forme latinisante, c'est le mot savant. Et là, par contre, on a les mots italiens. Et là, on a, par exemple, orranza, c'est un gallicisme. Un italien d'aujourd'hui, orranza ne saura pas. C'est-à-dire, un italien normal, pas cultivé, pas particulièrement cultivé, pas spécialement, ne comprendra jamais que orranza, ça veut dire onoranza, et que onoranza est un gallicisme. Tous les mots en anza, ce sont des gallicismes. Il y a beaucoup de latinisme, laudare, audite, et il y a des sicilianismes. Miso, c'est le participe passé du verbe mettre en sicilien. Pas en sicilien parlé, dialecte sicilien, dans la poésie sicilienne des origines, on dit miso, participe passé du verbe mettre. Et on dit core. Donc core, c'est ou bien du latin ou bien du provençal, puisqu'il n'y a pas de distinguaison ou o même en provençal, ou du sicilien, mais de la poésie sicilienne, miso c'est du sicilien. Ça c'est pour vous donner une idée de la complexité linguistique de Dante. Et de l'autre côté, on a une traduction absolument compréhensible, claire, celle que Mounin loue, il a raison de la louer, puisqu'on comprend tout. Et il n'y a aucun souci de respecter, vous voyez les vers, bien évidemment là on a des endécasyllabes, et là on a du n'importe quoi, mais c'est pas grave, puisque ce qui compte c'est transmettre le contenu. Hein, vous voyez là, on déborde carrément, puisque je les ai comptés, parfois il y a 16, 17 syllabes vis-à-vis de 11 syllabes. Mais ce n'était pas la métrique, les soucis de Pésard en 53. Il devait traduire en bon français, bien compréhensible, transmettre les contenus, c'est ce qu'il a fait, et il a fait sans problème. Après, on a, et c'est là que la chose devient beaucoup plus intéressante, la traduction de Pésard de 53 et celle de 65. Dans la prose, vous voyez, c'est des points très ponctuels sur lesquels il intervient. C'est les mêmes textes, mais j'ai souligné les variantes. Là, on peut faire un discours de variantes de traduction lorsqu'on reste sur la prose de Pésard dans son passage de 53-65. Mais déjà, après le départ devient après la départie. Une dame de gentil aspect entre toutes devient de moult gentilles semblances. Là, c'est encore plus compliqué puisque j'ai découvert que certains modifs ont été apportés dans les dactylographiés, pas dans les brouillons, puisqu'il y a un brouillon 1, un brouillon 2, dans les dactylographiés. Au fond, bon, on constate, oui, ens, pour dire et même, mais vous voyez, mon correcteur d'orthographe français ne souligne que les mots ens. Tous les autres existent, il arrive à les reconnaître, c'est de l'ancien français, et ça s'intègre aisément dans les textes, moult gentilles semblances, on comprend bien. Bon, la ville soudite devient la soudite cité, mais finalement, ça gêne pas trop la compréhension, c'est juste des points. Hein. Et les Guidernone, qui était devenu en 53 en récompense des, il récupère son étymologie germanique et il devient un guerdon des. Bon, je descends, puisque ce qui est intéressant, ce n'est pas tant la prose, c'est ce qui se passe avec la poésie, c'est-à-dire avec les sonnets. Là, je soulignais toutes les modifs. Vous voyez bien que du sonnet de 53, il ne reste pratiquement rien. Il reste plairaisamment puisque le fait plairait, je l'ai vu. Et souvent, ou qui. Tout le reste a changé complètement de nature. Pourquoi ? Puisque l'opération était double, il ne fallait pas seulement archaïciser les textes, il fallait en faire des décasyllabes. Pour respecter la métrique du décasyllabe, il a fallu bien évidemment complètement réécrire. Alors, si on peut parler des variantes de traduction pour la prose, on ne peut plus parler des variantes de traduction pour la poésie. Il faut parler d'une réécriture complète, d'une réécriture totale. Le Pésard qui écrit en bon français selon les règles de la querelle des anciens et des modernes, et le Pésard qui se révolte, qui décide de nous faire lire Dante tel que les Italiens d'aujourd'hui, les pauvres, sont obligés de les lire, c'est-à-dire pour ce qu'il est véritablement et pas pour ce que l'on voudrait qu'il soit, pour nous rendre agréable, facile, simple et sans problème sa lecture. La troisième opération que j'ai faite, donc là vous avez les différences entre les textes dactylographiés qui ne portent pas de date et les interventions dans les épreuves. Naturellement, tout ce travail-là, des recherches, d'études philologiques comparatives, on ne peut les faire qu'ici à l'IMEC, puisqu'on a une chance inouïe d'avoir accès au laboratoire traductologique et la chose la plus belle, c'est celle que je vous montre maintenant, c'est les variantes du manuscrit 1 et du manuscrit 2, ce sont des feuillets. Alors les premiers, En plus, voilà, là, vous avez le premier brouillon. Vous voyez, il est, quand je dois attaquer l'analyse du premier brouillon, j'ai toujours un peu des soucis, puisque vous voyez ce que je dois, dans quelle forêt-vière il faut que je rentre. Bon, celui le deuxième brouillon, c'est déjà pas mal, très facile, mais c'est dans les premiers brouillons qu'on voit la naissance du poème. Et pour vous montrer, j'ai demandé, malheureusement, je pensais pas travailler sur Piangete Amanti, je pensais travailler sur Donna Pietosa, et donc j'ai demandé qu'on me fasse, mais vous aurez une idée, voilà, ça c'est les brouillons de Donna Pietosa et de Nouvelle Etate. Et c'est ça que moi j'interprète. Je suis déjà assez avancée dans plusieurs de ces. Mais vous voyez, c'est vraiment un parcours du combattant, passionnant. C'est là qu'on voit naître les poèmes. Et puis bon, là vous avez par exemple, là je vais vous l'agrandir pour que vous puissiez les voir mieux. Ce compatissant, vous voyez, il est entouré, il n'aime pas du tout, il est encadré. Et au-dessus, il a écrit grossier. Donc je dois même au commentaire du traducteur qui non seulement me dit qu'il n'a pas aimé puisqu'il l'a rayé, puisque bien évidemment s'il l'a rayé il n'est pas satisfait, mais en plus qu'il me dit c'est grossier, je ne peux pas le laisser là puisque c'est grossier. C'était vraiment quelqu'un de très précis, de très minutieux, remarquable. 14 avril 1960, il est en train de nous dire que le 14 avril 1960 il est arrivé là. Moi, le 14 avril 1960, j'avais 3 mois et 4 jours. Et là, en rouge, recopié à la machine, le 11 mars 1961. Le 11 mars 1961, j'avais 1 an et 2 mois, quelque chose comme ça. Et je regarde ce qu'il a fait avec beaucoup de curiosité, avec beaucoup de respect. Et là, je trouve que ça le rend particulièrement humain. Ça, pour le travail sur les brouillons. Alors, je vais vous montrer, par rapport au texte qu'on est en train de voir, comment pénètre un vers chez... je prends un semi-lap. Alors, les premiers vers, c'est les mêmes, rien n'a bougé. Un vers 1 égale 65. Mais là, « au yang que le au coison les fait pleurer ». Alors, « au coison », c'est du français ancien. D'ailleurs, vous voyez, je ne sais pas si les CH sont déjà les lire palatalisés, mais « oi », on les lisait « oi », donc « au choison », mais ça veut dire « occasion hein, ». Les mots, l'étymologie, c'est « occasion ». Il met dans son premier brouillon « au yang », qui est déjà du français ancien, « quel au choison », il le fait plaire. Et puis bon, dans la deuxième version, il change d'avis, peut-être raison, ça peut suffire. Au fond, Oyan, c'est déjà, ça donne une impulsion déjà assez soutenue, assez noble, inutile d'exagérer, et les mots, l'archaïsme disparaît. Alors, amour entend d'âme clamant pitié. Il n'aime pas. Amour entend d'âme clamant pitié, alors il va essayer de changer. Sans d'âme entend-il clamer pitié? Il, naturellement, amour. Sans d'âme entend-il qui pitié clame? Mais il n'est pas trop convaincu. Amour d'âme entend pitié clamante. Mais bon, c'est clamante, encore moins. Alors, amour d'âme entend, il revient à qui pitié clame. Mais après, il dit non. Qui pitié clame, ça. Amour d'âme entend qui pitié clame. Enfin, amour entend clamer pitié sans dame. Et finalement, amour entend clamer pitié sans dame, on le retrouve dans la version finale. Et là, on voit naître son décasyllabe. Puisqu'en fait, les décasyllabes, c'est un endécasyllabe avec une syllabe muette qui ferme les vers. La syllabe muette, c'est la 11e syllabe de l'endécasyllabe italien. Donc, quand il choisit les décasyllabes, il les choisit en connaissance de cause, puisque un endécasyllabe, c'est un décasyllabe avec une dernière syllabe muette. Et l'endécasyllabe, il a ou un accent secondaire de 6e, ou un accent secondaire de 4e. Du moins, chez Dante, on peut trouver aussi d'autres accents. Mais avec Pétrarque, on acceptera comme classique régulier que les endécasyllabes de 6e et de 4e. On peut dire que tout choix de traduction sera obligatoirement déterminée par ce choix éthique. Oui, sur la question des brouillons, du travail sur les brouillons, je dois dire une chose. Jean-René Ladmiral dit que l'analyse a posteriori des traductions, c'est la traductologie du passé, la traductologie de hier. Alors que l'analyse avec l'imagerie cérébrale, les neurosciences et tout, sera, quand on pourra mettre des capteurs dans la tête du traducteur pour voir comment fonctionne son cerveau quand il traduit, sera la traductologie de demain. Il dit que la traductologie d'aujourd'hui, c'est celle de l'enseignant qui vérifie et suit. Voilà, en travaillant sur les brouillons des Pésards, je peux dire que même si ce travail je l'ai fait dans un monastère du Moyen-Âge, finalement, travailler sur les brouillons, c'est la traductologie des demain, sans besoin d'imagerie cérébrale. Puisque quand on voit tout ce qu'il efface et comment la dynamique, puisqu'il y a une dynamique, hein, il y a une essence du verbe, qui est une opération tout à fait dynamique, et là on peut vraiment étudier la traductologie de demain en s'en passant du scanner. Mais pourquoi il modifie tellement la Vita Nova des 53-65? Il la modifie tout simplement parce qu'il doit traduire l'œuvre tout entière de Dante, y compris l'œuvre latine. Même les Dante latins, il va traduire. Alors, dans ce refus presque général en France de la traduction d'André Pésard, je dois dire que l'unique voix discordante et remarquable que nous avons rencontrée est celle du Suisse Roger Dragonetti, qui a consacré une étude à cette traduction et qui en parle très bien. Ce qui est saillant, c'est le front compact contre l'archaïsme. Ces choix, Pésard les revendique et les justifie d'une manière très précise dans son introduction, alors que tous les théoriciens de la traduction, de Mounin à Michonique, de l'admiral à Berman, indépendamment de leur approche traductologique, s'y opposent. Leopardi, Giacomo Leopardi, qui est un écrivain italien, écrivait déjà dans son Zibaldone du 12 septembre 1823 que les poètes, puisque c'est un poète, un traducteur du grec et du latin, les poètes, à l'exception des Français, 1823, sauvegardent le plus possible l'ancien, car il leur est utile pour s'exprimer avec élégance ou dignité, en soulignant ainsi que dans l'ère poétique, ces poètes ont besoin de l'antiquité de la langue. Tous, à l'exception des Français. Leopardi décrit donc une situation qui s'inscrit dans les temps et qui est liée d'inconnu à l'histoire même de la langue française. La Pléiade et du Bellet privilégient l'écriture de Pétrarque, pas celle de Dante, l'écriture de Pétrarque. Et non seulement la Pléiade et du Bellet privilégient l'écriture de Pétrarque, mais il renie le Moyen-Âge français. Moi j'ai toujours été très frappée, c'est eux qui ont réintroduit tous les PH, les X, les Y, tout ce qui fait grec, latin. Et puis, l'aristocratie du roi soleil fera du français épuré et noble des racines, réduit à un strict monolinguisme, la langue internationale de la culture et de la diplomatie. Puis, la révolution bourgeoise fera de cette langue sous contrôle, qui se fait parfaite, élaguée, logique, les modèles de langue universelle à exporter. Bref, depuis le XVIe siècle, le français est tourné toujours vers l'avenir et l'expansion extérieure, jamais vers son passé. Donc, vous voyez, je veux dire, il y a toute une mythologie de la langue française, une construction de la langue française. C'est pourquoi toute traduction ne doit être faite que dans le français de l'élite parisienne, dans une langue de plus en plus sélective et monolithique, très peu souple et de moins en moins productive. George Steiner dit dans son ouvrage fondamental sur la traduction que derrière toute conception du traduire, il y a d'abord une conception précise de la langue. Et alors je suis allée voir la position en particulier de Berman, Antoine Berman, puisqu'Antoine Berman, c'est celui qui a prêché le plus qu'il fallait violer la langue française pour bien traduire. Il a prêché le plus tout ce qui est traduction qui casse les habitudes, qui s'ouvre à l'autre. Alors, je suis allée voir qu'est-ce qu'il écrit en 1985. Je dis tout de suite qu'il y a plusieurs Berman, il y a un Berman de 85 qui n'est pas celui de 95. Il faut bien distinguer, même chez les traductologues, il y a une évolution. Et là, j'en ai eu ma dose, puisque j'ai découvert que d'un côté, il fait les mêmes critiques que je viens de soulever au monolinguisme de la langue française d'aujourd'hui. De l'autre côté, il fait plein de louanges à Chateaubriand, traducteur de Milton, puisqu'il fait des néologismes latinisants, puisqu'il intervient avec des termes archaïques renvoyant au fond commun du français et de l'anglais. Donc je m'attendais à un discours sur l'archaïsme qui aille dans une... Et alors là, j'ai trouvé une théorisation de celle que finalement j'ai dû appeler la théorie du complot philologique. Finalement, il y a une théorie du complot philologique, ça m'a assez choquée. Donc d'abord, tous les malheurs au XIXe siècle viennent de la philologie positiviste, c'est ce qu'il appelle lui dans un chapitre de son ouvrage « L'auberge du lointain », etc., l'emprise philologique. Alors, les philologues allemands, eux, quand même, ont droit à des louanges, puisque eux, ils ont su rester, ils ont su garder mémoire de leurs origines romantiques. Et ils ont su rester philo-logue, c'est-à-dire amant du logos. Il y a chez eux l'amour de la langue, ils n'ont pas, chez eux, la philologie n'est pas devenue érudition bornée. Donc ça veut dire que les philologues français positivistes, ce sont des érudits bornés où il n'y a pas l'amour de la langue, où il n'y a pas la philo du logo, où on a renié les origines romantiques, bref. Mais surtout, il les attaque, et il attaque en particulier en prenant l'exemple de Dante. Tel est le cas pour Dante des entreprises de Littré, des Borchard et des Pésard, visant à traduire ses poètes en provençal, en vieil allemand et en vieil français. Ces traductions archaïsantes, très impressionnantes par ailleurs, sont typiques de l'esprit philologique quand il veut se dépasser lui-même. Et alors voilà qu'est-ce qu'il va nous dire. Ces traductions-là sont illisibles, sont des véritables désastres au plan du commentaire et de la traduction. D'après lui, je mets les guillemets, la connaissance exacte d'une œuvre et d'une langue n'habilite nullement, en italique, à la traduction et au commentaire. Et je ferme les guillemets. Donc, les discours de Berman s'est fait si particulièrement embrouillé et démagogique. Finalement, c'est la philosophie positiviste du XXe siècle qui, d'après lui, rend illisible, ennuyeuse, étrangère à la sensibilité du lecteur moderne, les œuvres classiques. Et il conclut en affirmant « Les gros problèmes de la traduction philologique, c'est qu'elle n'a pas d'horizon. J'entends par là non seulement des principes de traduction, mais un certain ancrage dans la langue et la littérature de la culture traduisante. » Alors, pourquoi cette haine aveugle de la philologie, hein, surtout chez quelqu'un comme Berman, qui prêche la transgression du code accompli par la littéralité et l'ouverture culturelle à l'autre marquée par le plurilinguisme. Vous vous êtes demandé pourquoi autant de haine. Je suis en train de lire un livre magnifique d'un philologue et philosophe d'origine germanique, Heinz Wiesmann, un ouvrage qu'on ne peut que conseiller, Penser entre les langues, magnifique. Et il explique, publié maintenant en 2012, hein, Heinz Wiesmann explique qu'en 1968, il était à la Sorbonne et il étudiait la philologie et la philosophie, il étudiait les deux, et qu'il a même dû écrire un article paru dans Critique, Les métiers du philologue, pour essayer d'expliquer aux contestataires que la philologie était autre chose de ce qu'eux, ils entendaient pour par philologie. Mais finalement, il arrive aussi à la conclusion que l'établissement et les contestataires, il voulait les uns garder le pouvoir et l'autre les prendre. Point. De philologie dans tout ça, il n'y avait vraiment pas de débat. Alors, Moi, je ne pourrais pas vous raconter tout ce qui suit, mais il suffit de lire l'introduction des Pésards, non pas à la traduction de 1953. Celle de 1953 est une introduction littéraire. Jamais vous trouverez un commentaire à sa traduction, sauf dans les notes en fin de volume. En revanche, j'étais très étonnée quand j'ai pris en main la Pléiade, l'édition de la Pléiade, puisque vous avez là une introduction de une cinquantaine de pages, hein, une très riche introduction, où il n'est question que de principes traductologiques. C'est-à-dire, il explique de A à Z pourquoi il a fait ça, avec une clarté, une précision, une honnêteté intellectuelle qui m'ont particulièrement touchée, puisque finalement, il ne dit pas son nom, mais pour moi, c'est aussi un théoricien de la traduction qui est en train de s'exprimer avec beaucoup d'humilité, hein, c'est pas quelqu'un de... Et donc, il commence en disant cela: je voudrais communiquer au public français plongé dans la comédie la même impression que peut éveiller chez les Italiens d'aujourd'hui le contact soudain avec leur vieux chef-d'œuvre. C'est-à-dire qu'il s'est vraiment posé la question: qui était Dante pour les Italiens du XIVe siècle, pour les Italiens d'aujourd'hui? Quel est l'effet de lecture aujourd'hui pour un Italien? Et je vais mettre les Français dans la même situation. On ne peut pas tricher avec Dante. Ceci dit, je reste de l'avis qu'il y a de la place pour tous ces Dante. Du moment qu'une traduction dit ses principes, après on l'accepte avec ses principes. Il n'y a pas une traduction plus meilleure, une traduction plus légitime qu'une autre. Chaque traduction répond à des principes. Donc, tout ce qu'il affirme dans cette introduction, c'est d'une clarté lumineuse. C'est vraiment, d'après moi, une invitation à la lecture. L'archaïsme pésardien, dit Dragonetti, au sens esthétique du terme, n'a rien à voir avec une quelconque reconstitution archéologique de l'ancien français. Les mots et la syntaxe ne sont pas utilisés comme documents d'archives, mais comme une métaphore continue de la langue première. La traduction de Pésard procède d'une écriture qui consiste à raviver l'ancien dans le nouveau, ou si l'on veut, à faire de la langue l'anamnèse d'un passé antérieur, dans l'actualité d'un présent vivant, qui produit sous l'action des tropes de l'archaïsme un effet d'éloignement et d'obscurité. Il voulait donner Pésard au lecteur l'impression d'une langue inouïe, d'une langue qui n'existe nulle part ailleurs que dans l'espace réservé de la poésie. Ma conclusion portera sur la question naturellement de la culture française et de l'archaïsme. Tout choix de traduction est soumis par Pésard à la loi du rythme des casyllabiques. Un archaïsme d'ordre musical, extralinguistique, suprasegmental, règle et gouverne toute la substance linguistique de sa traduction. C'est un archaïsme qui renvoie à l'histoire de la langue et culture française, aux origines même de la Dulce France. Alors, on aimerait conclure en posant ces simples questions. Pourquoi exclure les vieux français du dialogue plurilinguistique à la base de tout acte de traduction? Pourquoi chercher, comme l'a fait Berman, la troisième langue tutélaire, la langue reine qui par miracle permet la polytraduction dans l'allemand, le latin, l'anglais, mais jamais dans son propre passé linguistique? Pourquoi le regard porté sur l'ancien français devrait être forcément celui positiviste de l'érudit borné? La relation à la langue maternelle représente toujours une interrogation sur ses propres origines. Dante imagine au début du De Vulgari Eloquentia les premiers dialogues d'Adam avec Dieu, en reconstituant à sa façon la langue atavique de l'Illup Tempus. C'est peut-être ces scandales du tiers exclu, les vieux français, qui hantent la francité traductologique et engendrent la haine de la philologie. Avoir régné la langue mère, puisque pas assez noble, pas assez digne. Les traducteurs Pésard, en revanche, retrouvent dans les fonds médiévaux de la langue maternelle les possibilités d'expression qui permettent aux poètes de forger une langue nouvelle. Heureusement pour nous, et là je vais vraiment conclure, l'imagination savante, l'amour de la langue, la liberté d'esprit des poètes comme André Pésard nous réconcilie avec ses passés perdus, Les échos lointains de ces mots inauguraux et archaïsants nous permettent de reconstruire sans cesse les passages et les contacts oubliés entre les langues et les cultures dans l'espace européen.